Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fréquence Mistral et c'est l'heure de Force 7, un magazine d'information préparé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce troisième numéro de Force 7, les Alpes de Haute-Provence signent une convention avec Enedis pour la transition énergétique. Nous entendrons René Massette et Sébastien Matteron. L'entreprise Flodim a bénéficié du plan de relance à Manosque. Elle va pouvoir agrandir son implantation. Reportage dans un instant. Le bureau Presse Tabac de Castellane, partenaire de la Direction départementale des finances publiques. Le reportage de Véronique Hermand dans un instant. Le sujet est d'importance car les factures augmentent régulièrement à Sisteron. On planche et consulte sur la gestion de l'eau. Originaire de Gap, Blandine Gaillot a créé sa marque de cosmétiques avec des produits eau alpins. Rencontre dans ce magazine. Le 04 signe une convention avec Enedis pour la transition énergétique.
C'est un échange de bons procédés et de données entre Enedis et un département qui est acté. Le 04 est le premier département de la région à signer un engagement de ce type avec Enedis. À la clé, un bon usage de l'électricité et des économies d'énergie pour la collectivité et ses partenaires. Directeur territorial des Alpes du Sud pour Enedis, Sébastien Matteron répond aux questions d'Odile Frison, mais d'abord, le président du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, René Massette.
Aujourd'hui, donc, on procède à la signature de la charte de partenariat avec Enedis, donc pour tous ceux qui accompagnent de la transition énergétique et des grands projets départementaux. Enedis nous accompagne dans cette démarche-là, et le document qu'on paraffe aujourd'hui, c'est aussi pour nous permettre de mieux travailler sur les projets que l'on a présentés, dans le cadre du contrat d'avenir en particulier, sur la problématique de la décarbonisation de toute notre consommation d'énergie. Nous, ça fait déjà longtemps qu'on s'est engagé là-dedans, parce que depuis 2015, nous avons donc mis en place le dernier bilan carbone, et on constate qu'entre 2015 et 2019, on a une diminution de 21% des émissions de gaz à effet de serre. Pour l'avenir, on a donc décidé de faire des opérations qui se voient, des opérations qui nous permettent de mettre en avant le projet départemental, et 4 bâtiments sont envisagés pour y mettre des panneaux solaires, dans l'hôtel du département, le siège, quoi, le centre technique routier départemental et les collèges de Fort-Calquet et de Jean Giono à Manosque. Donc, Enedis est notre distributeur historique et grâce à son action, plus de 95% des énergies renouvelables sont connectées au réseau public. Il était tout à fait naturel que l'on signe une convention pour finaliser un peu le rôle de chacune des deux entités pour nous permettre de mieux accompagner cette transition énergétique.
Sébastien Matteron, vous êtes directeur Enedis Alpes du Sud. De quelle manière vous allez répondre concrètement à cette transition énergétique ?
Tout d'abord, je dois vous préciser que je suis doublement satisfait de signer cette convention d'accompagnement du département aujourd'hui avec le président Massette, parce que d'une part, c'est un plaisir personnel que de signer avec monsieur le président, puisqu'on se connaît de longue date et qu'on a l'habitude de travailler ensemble au service du public et de la collectivité. Et d'autre part, parce que c'est le premier département de la région avec lequel on signe une charte de partenariat relative à la transition énergétique. Donc, dans cette convention, on parle de quoi ? On parle d'accompagner le département dans le cadre de sa politique publique sur la transition énergétique et sur la transition écologique au sens le plus large. Tout d'abord, en mettant à disposition du département la possibilité d'analyser les données propres de consommation des établissements relevant des missions du département, que ce soit les collèges, que ce soit les SPIS, que ce soit les maisons techniques, c'est-à-dire avec de la mise à disposition de données de façon à ce que le département puisse être alerté d'écarts particuliers d'usage, tout d'abord. Ensuite, des aides à la décision dans le cadre de la politique publique du département, des aides à la décision parce que le département se lance, René Massette l'a dit tout à l'heure, dans le développement de toitures photovoltaïques sur ses bâtiments. Donc, des aides à la décision sur le raccordement, sur le séquençage de leurs opérations par lesquelles il faut commencer, mais aussi sur l'autoconsommation individuelle ou collective, où là, nous pouvons accompagner de par notre expertise le département. Et puis, tout ce qui tourne autour aussi de nouveaux usages de l'électricité, autour de la mobilité électrique, du stockage ou autre. Donc, nous mettons en place dans le cadre de ce partenariat aussi un interlocuteur dédié pour le département, qui sera là pour accompagner le conseil départemental dans toutes ses démarches vis-à-vis du réseau public de distribution. Nous devons gérer, nous, ce réseau public dans le cadre des missions qui nous sont confiées à la fois par l'État et les collectivités. Voilà. Donc, en gros, les missions principales donc, tournent autour de la mise à disposition de données, des éclairages, donc des aides à la décision, et puis également de l'expertise autour des projets de politique publique. Et un dernier point aussi, puisque vous savez que le département travaille beaucoup sur la précarité, et donc là aussi on peut apporter des éclairages relatifs à la précarité énergétique sur le département, à base de données anonymisées pour orienter aussi la politique publique du département.
Vous parlez de contexte profond de modernisation du service public. En quoi c'est une modernisation ?
Vous l'avez mesuré depuis une dizaine d'années. La politique publique autour de la transition énergétique s'est profondément transformée. La politique publique s'est orientée pour que, à la fois dans la production d'électricité, mais aussi dans les usages qui en sont faits, la décarbonation soit au cœur de la politique publique. Donc aujourd'hui, vous avez de plus en plus de développement d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, d'une part. Vous savez que 95% des installations d'énergie renouvelable sont raccordées sur le réseau public de distribution. Donc nous avons dû nous transformer aussi pour non seulement livrer l'électricité aux clients, mais aussi pouvoir collecter la production de chacun et de chaque centrale. Là, je parlais de la production, mais c'est aussi le cas dans les nouveaux usages d'électricité. Vous l'avez vu, là, depuis une dizaine d'années, le parc automobile français est en train de se transformer. Il y a de plus en plus de véhicules électriques. Donc, il faut recharger ces véhicules électriques. On a, sur le département des Alpes-de-Haute-Provence, raccordé avec le DE04, donc, un peu plus de 60 bornes de recharge publique, auxquelles s'ajoutent les bornes professionnelles sur les sites professionnels, auxquelles s'ajoutent les bornes résidentielles. Donc cette transformation-là, il faut l'accompagner aussi. Et demain arrive du stockage individuel d'électricité et aussi du pilotage de la recharge. Les gens pourront demain recharger leur véhicule électrique de manière plus intelligente en fonction des tarifs qui leur sont faits, mais aussi parce qu'on a mis en place depuis 10 ans de nouveaux outils numériques. Et notamment, tout ça n'est possible que parce qu'il y a des nouveaux compteurs intelligents qui sont, on l'a toujours dit, la première brique de la transition énergétique. Notre mission régalienne, c'est raccorder les clients, moderniser le réseau, dépanner le réseau et assurer les missions de comptage et depuis récemment donc la mission d'opérateur de données de façon à avoir un cadre normé et maîtrisé au niveau national. En Provence, Alpes-Côte d'Azur, donc nous avons une organisation qui s'appuie sur deux directions régionales, une direction régionale Côte d'Azur qui couvre les Alpes-Maritimes et le Var et une direction régionale Provence-Alpes du Sud qui couvre les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Et donc moi je suis le représentant territorial de cette entité-là pour les deux départements, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Donc nous sommes 1600 sur les 4 départements pour assurer nos missions de service public. Sur le département, nous avons des équipes opérationnelles parce que lorsqu'on doit intervenir pour du dépannage ou de l'entretien, il faut être plus près du réseau. Et la géographie de notre département fait qu'on doit avoir du personnel un peu réparti. Donc nous sommes implantés sur Manosque, Digne, Sisteron, Castellane et Barcelonnette. Nous avons un service public de proximité.
Manosque, bon plan pour Flodim.
Il s'agit du plan de relance dont les effets sur les territoires se font sentir. Belle entreprise, reconnue pour ses compétences et ses qualités, Flodim développe des technologies de pointe pour forer et explorer les sous-sols jusqu'à plus de 5 km sous terre. Elle est sollicitée par les industriels dans le monde entier. Nous entendrons son directeur général Jean-Paul Craveil dans un instant. Créé et toujours installé à Manosque, Flodim comprend une quarantaine de salariés in situ et des partenariats dans plusieurs pays. Retenue dans le cadre du plan de relance, la société bénéficie d'une aide de 800 000 euros de l'État pour construire un bâtiment de 800 m² lui permettant d'assurer son développement, un soutien qui s'ajoute à des subventions de l'ADEME pour son activité industrielle et environnementale. aux côtés de la préfète des Alpes de Haute-Provence, Violaine Desmarais, le maire de Manosque, Camille Galtier, le vice-président de l'agglomération, André Mille, et la sous-préfète de Fort-Calquier, Nathalie William, ainsi que l'architecte Roger Sauvageon, ont prêté main forte à Jean-Paul Crabeil, à grand renfort de coups de pioche pour marquer le début des travaux. La préfète Desmarais évoque l'impact du plan de relance pour le 04, mais d'abord, Jean-Paul Crabeil précise l'activité de Flodim. Jean-Paul Crabeil, vous dirigez Flodim à Manosque. Quel est le cœur de métier de Flodim ?
Le cœur de métier, au tout départ de la société, c'était la mesure et les services en cavité souterraine. Cette activité est liée à mon parcours professionnel. J'ai passé les 6 ans de ma vie professionnelle au tout début à travailler pour Schlumberger en exploration pétrolière et pour Geostock. Ensuite, pendant 9 ans, en ingénierie de cavités souterraines. Et la mesure de cavités souterraines correspondait à un domaine beaucoup trop petit, au moins à l'époque, pour de grands industriels comme Schlumberger ou Geostock. Et j'ai pensé que j'étais en mesure de répondre à des besoins exprimés par des clients industriel français.
Vous avez créé votre société il y a plus de 25 ans et vous vous développez notamment à l'étranger.
Nous comptons bien un jour pouvoir continuer à nous développer en France, mais l'essentiel des dossiers auxquels nous répondons aujourd'hui sont situés à l'étranger. En 2013, nous avons fondé Flodim do Brasil à Aracaju dans le nord-est du Brésil. Et nous avons commencé à développer notre partenariat américain en 2018 et notre partenariat canadien en 2019.
Dans quel type de sous-sol vous travaillez ?
Alors nous travaillons essentiellement en cavité saline. Ce que nous considérons être les stockages les plus intéressants à exploiter se trouvent en cavité saline. Au départ, largement pour des pétroliers et des gaziers qui ont des besoins de stockage qui deviennent intéressants en souterrain dès lors qu'il y a de gros volumes. Et nous espérons bien pouvoir décliner notre expérience en développement de cavités à de futurs stockages qui sont aujourd'hui en cours de réflexion, comme ceux qui peuvent concerner l'air comprimé et surtout l'hydrogène.
Et vous avez, dans le développement de votre société, pu compter sur l'aide de l'État, notamment le plan de relance, on va y revenir après avec la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, mais aussi grâce à des subsides de l'ADEME.
Nous considérons que la combinaison des aides est effectivement d'un intérêt tout particulier pour nous, parce que le plan de relance s'occupe de nos investissements de fonds, ceux qui vont nous permettre de nous donner la structure nécessaire à porter de nouveaux projets. Et l'ADEME, le dossier iWise que nous avons monté dans le cadre du projet ou du dossier Innove de l'ADEME, va nous permettre de développer 3 nouveaux instruments qui s'inscrivent pleinement dans une vision d'avenir de la société et qui va permettre, si nos approches sont correctes, de pouvoir devenir un acteur d'intérêt particulier dans le développement de cavités de grande dimension et également, pour certains aspects du dossier, dans l'abandon de puits de type pétrolier qui est un autre sujet environnemental d'intérêt.
Grâce à ce premier coup de pioche ici à Manosque, il y a un bâtiment qui va sortir de terre et qui vous permettra d'avoir 800 mètres carrés de superficie utile.
Oui, absolument. Nous avons réfléchi depuis plusieurs années sur l'idée de disposer d'un espace supplémentaire pour nous permettre de mieux porter nos efforts de développement. Il faut dire que depuis 3 ans, nous avons acheté à peu près tous les 4 mois un nouveau conteneur pour y entreposer nos matériels, que ça n'était pas vivable sur du long terme et qu'aujourd'hui nous avons additionné les besoins qui sont principalement des besoins cette fois-ci industriels parce que nous souhaitons d'une certaine manière produire une partie des pièces dont nous avons besoin. Nous avons également prévu une pièce, un bureau pour faire de la métrologie, c'est-à-dire de la vérification de la conformité des pièces mécaniques que nous développons. Nous nous sommes également équipés d'un petit espace dédié à la fabrication de cartes électroniques. Et puis, nous avons un vrai besoin, si nous voulons grossir plus tard, c'est d'anticiper la formation de nos futurs intervenants, des intervenants Flodim. Nous en avons besoin aujourd'hui et nous allons en rechercher prochainement, des intervenants sur le terrain. Et également, les intervenants issus des partenariats que nous avons commencé à créer. Mais nous avons un véritable besoin de formation de nos personnels. en parallèle des prochaines affaires que nous espérons obtenir. Il est clair que former à nos technologies, à nos matériels et à l'environnement industriel de nos interventions est un besoin majeur d'avenir de la société si nous voulons continuer à grossir.
À vos côtés, Violaine Desmarais, qui est préfète des Alpes de Haute-Provence, on voit bien là que le plan de relance, c'est du concret.
Ah oui, c'est du très concret, puisque ça a représenté un coup de pioche cet après-midi. Et le coup de pioche, c'est pas vraiment nous qui le donnons de façon très professionnelle, mais on va commencer à bâtir un bâtiment industriel sur ce terrain. Donc c'est du très concret. Et on voit qu'on est allé vite, puisqu'on a lancé le plan de relance, vous le savez, dans les Alpes de Haute-Provence, comme partout ailleurs en France, début septembre. Et quelques mois après, à peine, on commence à construire de vrais projets.
Pour ce qui est de ce projet, justement, ici à Flodim, il y a déjà une partie de l'argent qui est arrivé, donc ça va vite aussi.
Oui, moi j'étais venue il y a un peu plus de 2 mois sur ce site pour discuter avec le patron de Flodim et avec ses équipes, notamment l'équipe administrative et financière, pour voir un peu comment c'était passé pour eux une fois qu'on a fait l'annonce. Et faire l'annonce, c'était pas le tout. On a commencé à recevoir l'industriel il y a déjà plusieurs mois, dès le mois de septembre, accompagner son dossier, donner un avis favorable au niveau régional et au niveau national pour qu'il soit retenu. Après, il est retenu. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'est pas arrivé au fameux dernier kilomètre qu'évoque souvent le président de la République. Il faut qu'on s'assure que l'argent promis, les 800 000 euros, ce qui est une somme majeure, soit bien arrivé. Et en fait, ce que nous disait le patron, c'est que dès le mois de décembre, donc moins d'un mois après avoir été retenu lauréat, l'entreprise avait déjà touché 50% de ces 800 000 euros. Donc c'est majeur, et c'est ce qui lui a permis aussi, avec cette rapidité du plan de relance, avec de l'argent très concret qui arrive dans les caisses des entreprises, de commencer aujourd'hui ce coup de pioche.
On peut également dire que le département des Alpes de Haute-Provence est plutôt bien servi par le plan de relance.
Ah oui, tellement bien qu'on fait un peu de jaloux pour ne rien vous cacher, puisqu'on représente 3% de l'emploi dans l'industrie dans la région, et qu'au jour où je vous parle, avec 6 lauréats, on représente 17% des lauréats. Et on le savait dès le début, on est allé très vite dans ce département, c'est ce qui fait qu'on a ces 6 lauréats, et on en a un 7e qu'on espère bien pousser, et on compte pas s'en arrêter là. Donc oui, ça va vite, et c'est très concret, on est bien positionné, donc on fait un peu des jaloux, mais on va continuer à en faire, parce qu'on va continuer, on compte pas s'arrêter là.
Une offre de paiement de proximité au bureau de tabac.
C'est à Castellane, plus petite sous-préfecture de France, que le paiement des impôts, amendes ou encore factures des services publics est désormais possible au bureau Presse Tabac. Une opportunité appréciable, notamment depuis la fermeture du centre des impôts. Un outil informatique de la Française des Jeux assure la transmission des fonds. Les contribuables peuvent effectuer des paiements en espèces jusqu'à 300 euros et par carte bancaire. Marie et Alain Ciboulet ont déposé un dossier en juillet 2020 et leur bureau Presse Tabac est désormais le premier des Alpes de Haute-Provence à œuvrer en partenariat avec la Direction des Finances Publiques de Digne. Au micro de Véronique Hermand, vous entendrez successivement Alain Ciboulet, puis Laurent Spinoza qui préside la Fédération Régionale des Buralistes, et enfin Isabelle Godard de Vaujany, administratrice générale et directrice départementale des Finances Publiques. Ils évoquent le dispositif de cette offre de paiement de proximité.
Alain Ciboulet, buraliste à Castellane.
Vous êtes gérant avec votre femme Marie du premier bureau de presse des Alpes de Haute-Provence à recevoir les impôts en collaboration avec la Française des Jeux et le Trésor public.
Oui, on s'est inscrit en premier pour le paiement de proximité, sachant que les impôts fermaient à Castellane, donc on a dit qu'il faut rendre service, quoi. On a monté un dossier en passant par les FDJ. Et on a fait un stage, mais qui se fait par ordinateur, voilà, pour avoir l'accord des impôts. La FDJ a un matériel très bien pensé, c'est assez rapide. On scanne le papier apporté, et puis après on met le nom et c'est terminé. Enfin, on règle, hein, bien sûr, hein, mais c'est rapide, c'est très bien fait.
Laurent Spinoza, président de la Fédération départementale et de la Fédération régionale méditerranéenne des buralistes.
C'était un appel d'offres lancé par le gouvernement pour pouvoir obtenir ce marché. Il fallait avoir plusieurs critères et répondre à plusieurs critères effectivement en termes de système d'encaissement, de proximité, d'amplitude horaire aussi. C'était très important. Ça a été remporté par la Confédération des buralistes et ça permet aux 25 000 buralistes de France, ceux qu'ils souhaitent en tout état de cause, de pouvoir proposer ce service.
Et cet accord est récent entre vous ?
Monsieur Ciboulet, le buraliste à Castellane, a été le premier Buralis a bénéficié de ce nouveau service du paiement de proximité qui a démarré le 28 juillet 2020.
Sur le département ?
Sur le département des 04. Aujourd'hui, on en est à 35. 7 sont en cours de validation, qui va porter à 42 le nombre de buralistes équipés du système d'encaissement de proximité, avec une moyenne de 82 euros d'encaissement journalier sur tout le département. Quoi.
Ça va leur prendre beaucoup de temps ?
Non, c'est puisque du coup, c'est vrai que le fait d'avoir aussi ce partenariat donc avec la Française des Jeux, qui nous a permis donc de pouvoir utiliser son système informatique et d'encaissement, c'est quelque chose de très rapide. C'est vraiment quelque chose de très rapide, et c'était aussi le but de ne pas partir sur un système compliqué qui dure dans le temps. Donc voilà. Donc là, comme nous l'a dit tout à l'heure le Buralis, c'est vraiment très très simple l'utilisation.
Isabelle Godard de Vaujani, administratrice générale des finances publiques et directrice départementale des finances publiques.
La trésorerie de Castellane, en janvier dernier, a été transférée en partie à Saint-André et les Alpes, en partie à Barcelonnette. Mais ce qui était très important, c'est que ce transfert de gestion de dossier soit totalement transparent pour les usagers. C'est pourquoi nous avons organisé le conseil aux élus, avec notamment Monsieur le maire de Castellane, qui a son conseiller aux décideurs locaux attitrés, et pour les concitoyens, un paiement de proximité, c'est-à-dire un lieu, en l'occurrence le tabac presse de Monsieur Ciboulet, qui permet aux usagers du territoire de payer leurs amendes, leurs impôts, les factures de crèche, d'hôpital, par un simple flash code. C'est hyper simple, aussi bien pour le commerçant que pour l'usager. On flash un code, c'est totalement confidentiel. Le buraliste ne sait pas ce qui est encaissé. Simplement, avec ses logiciels, ses process informatiques et comptables sécurisés, tout ça se fait en parfaite sécurité.
Ça doit étonner certaines personnes quand même que ce soit la Française des Jeux qui encaisse les impôts.
Alors c'est vrai que l'annonce a pu paraître un peu surprenante. Alors pourquoi la Française des Jeux ? C'est parce que cette opération, elle est nationale. C'est un marché public national qui a été passé. Et dans le cahier des charges figurait l'obligation d'avoir des horaires d'ouverture assez larges, d'avoir surtout de la sécurité. Et on sait que les buralistes sont extrêmement vigilants sur ces points-là. Un outil informatique que la Française des Jeux a mis à disposition, un outil informatique robuste et simple, surtout très simple pour le commerçant et l'usager.
Et le service public des impôts en particulier s'est beaucoup amoindri sur le plan de la réception présentielle. Est-ce qu'il y a une raison à cela ?
Alors ça, c'est une idée reçue, parce qu'en réalité, au terme de la réorganisation de mes services, pour les usagers, les points de contact avec nos services de la DDFIP, des finances publiques, vont passer de 15 à 21. Mais effectivement, plus sous la forme d'un centre des impôts ou des finances publiques, mais à travers notamment les espaces France Service, et Castellane à cet égard est emblématique, puisque justement la maison de service au public a été labellisée France Service. Ça veut dire qu'elle offre toute une garantie d'accueil de services de haute qualité. Et les usagers, au lieu de venir à la trésorerie comme ils le faisaient, vont maintenant pouvoir aller à la MSAP, poser la question. Dans la majorité des cas, l'agent d'accueil de cet espace sait répondre, parce que la majorité des questions sont finalement assez simples et toujours les mêmes. En cas de questions un petit peu plus complexes, l'agent de la maison France Service appelle son correspondant dans nos services, à Saint-André, à Barcelonnette, à Digne, suivant la question posée. Et à ce moment-là, nos agents répondent aux questions complexes. Il y aura 21 points de contact répartis sur tout le territoire, et j'ai bien évidemment veillé à ce que tout l'est du département, qui est moins dense en population, soit tout aussi couvert en points de contact, parce que c'est vraiment en ruralité qu'on a besoin de trouver une porte d'entrée. On regroupe les forces de gestion sur des centres moins nombreux mais avec plus d'agents pour la gestion des dossiers, c'est-à-dire tout ce que les usagers ne voient pas. En revanche, pour les points de contact, on a multiplié à travers donc nos centres à nous, plus les maisons de service au public. Mais nous sommes sur un service public qui sera davantage préparé, par exemple, à travers le rendez-vous. On développe beaucoup la réception sur rendez-vous. La campagne d'impôt sur le revenu qui s'ouvre aujourd'hui, finalement, c'est un temps fort de la réception, du renseignement, de rencontre entre le service public et les concitoyens. Depuis des années, cette rencontre, c'était souvent des files d'attente devant les centres des impôts. Dans la mesure où on multiplie les points de contact, l'accueil sur rendez-vous plutôt que de venir sans prévenir et de se heurter à une file d'attente, l'évolution, c'est de prendre rendez-vous. Et quand vous prenez le rendez-vous, nos agents vous rappellent. Lors de ce rappel, on vous demande de préparer le dossier, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi vous voulez venir nous voir. Dans 60% des cas, on vous évite le déplacement. Voilà l'évolution du service public.
publique ou privée, la gestion de l'eau ne coule pas de source.
Depuis une dizaine d'années, on assiste à une reprivatisation du marché de l'eau en France. Un marché détenu à 60% par des sociétés privées et souvent au détriment des citoyens. Assisterons à une consultation sur la question élancée par un collectif qui envisage aussi une manifestation en mai. Militant du mouvement pour une gestion publique de l'eau, Alain Paulien répond aux questions de Chris Alessandri.
Aujourd'hui, on sait que l'eau est une denrée de plus en plus rare et de plus en plus inégalement répartie, que ce soit au niveau de notre département, au niveau français ou au niveau mondial. L'eau, on l'a en abondance quand on n'en a pas besoin, comme par exemple dans le sud-est, dans les Alpes-Maritimes, et puis on en manque cruellement la plupart du temps. En ce moment, par exemple, dans le 04, on a une période de sécheresse importante. L'eau est illégalement répartie, comme je l'ai dit, et ça s'aggrave de plus en plus. Et malheureusement, pendant ce temps-là, l'eau est accaparée par des entreprises, par des multinationales, qui en font un commerce et qui l'introduisent en bourse. Il y a énormément d'émissions de télévision, notamment, qui en parlent, qui montrent comment ces multinationales rackettent les gens avec l'eau, profitent donc d'un bien commun pour faire de l'argent. Et
l'eau doit rester un bien public, hein, c'est ce que vous revendiquez.
Voilà, l'eau, comme beaucoup d'autres choses, doit redevenir un bien commun, un bien qui appartient à tout le monde, et pas aux multinationales. C'est d'ailleurs le titre d'une votation citoyenne qui pose la question aux gens, donc tout le monde peut voter en ligne, et la question, elle est très simple, c'est « Êtes-vous favorable à l'inscription dans la Constitution française du droit à l'eau et à l'assainissement, à protéger l'eau et à interdire son accaparement par les multinationales ?»
Alors là, votre combat, c'est en fait, vous montez donc au créneau, vous êtes sur le terrain, vous allez au contact, vous informez les personnes. De quelle façon est-ce que vous informez sur ce sujet que pas tout le monde maîtrise forcément ?
Comme vous le savez, je suis à la France Insoumise, donc la France Insoumise fait partie des organisateurs de cette votation citoyenne, et donc nous avons des clients que nous avons distribués il y a 10 jours sur le marché de Sisteron, en incitant les gens à voter. Ça s'est passé également à Digne-les-Bains, ça s'est passé dans plusieurs endroits du département, à Fort-Calquier plus récemment, et donc dans cette plaquette, il y a justement tout ce qui est utile de savoir sur l'eau, sur son rôle, sur le fait que c'est un bien indispensable à la vie, qu'on ne peut pas s'en passer, et que donc, par conséquent, ça ne peut pas être la propriété de personnes qui font de l'argent.
Alors, en étant en contact, quelles sont les réactions des personnes que vous informez, que vous rencontrez sur des événements comme ceci ?
Alors, il y a deux sortes de contacts. Des gens qui sont blasés et qui n'ont pas envie de nous écouter, mais quel que soit le sujet. Et pratiquement tous les autres qui, dès qu'on leur parle de l'eau, se sentent concernés et réagissent. Les gens qui se sentent concernés par l'avenir, par les faits de société, ben, ces gens écoutent et signent la pétition. Malheureusement, on a des sujets qui sont développés en général, ce sont des sujets de consommation, des sujets de Covid, de sécurité. Les biens publics, les biens communs, c'est plus compliqué. Quand on les touche, ça marche tout de suite.
Ces multinationales qui cherchent à faire de l'eau un bien privé, elles sont bien identifiées. Quelle est leur stratégie? De quelle façon est-ce que vous pouvez éventuellement les combattre?
Alors oui, elles sont bien identifiées. Il y a encore actuellement en actualité le regroupement de Veolia et de Suez pour faire, soi-disant, le champion du monde de l'eau. C'est pas pour notre bien, c'est pour justement faire de l'eau une propriété privée qui permet à ces opérateurs de faire de l'argent. L'objectif n'est pas de donner l'eau aux gens, l'objectif est de faire de l'argent. Et c'est pour ça que nous, on souhaite que l'eau reste un bien commun, ou en tout cas le redevienne pour les endroits où elle ne l'est pas, et qu'on inscrive dans la Constitution française le droit à l'eau et à l'assainissement, et interdire son accaparement par les multinationales. Aujourd'hui, on voit bien partout ce qu'il se passe. On veut privatiser les barrages, on veut privatiser d'autres biens communs. Privatiser les barrages, ça veut dire également donner la possibilité à des entreprises de gérer l'eau des barrages à notre place, à la place des citoyens. Et donc, évidemment, qu'une entreprise qui fait de l'électricité avec l'eau, elle va dire, ben moi, aujourd'hui, je ne turbine pas parce que l'électricité n'est pas assez chère. Je turbinerai l'eau quand l'électricité sera plus rémunératrice. Ou de dire, ben écoutez, moi aujourd'hui je turbine, même si en bas ça passe pas parce que les autres barrages sont tenus par quelqu'un d'autre. On voit bien que cette logique marchande, elle est contre-productive et elle est surtout contre les intérêts des citoyens. L'eau fait partie des biens communs, comme la santé, comme l'éducation. Chaque citoyen devrait s'emparer du problème et insister pour que tous ces biens redeviennent des biens communs, des services publics au public, et enlever de la rapacité des entreprises et des multinationales.
Et parmi les suggestions que vous faites au sein même de cette stratégie que vous avez, le droit à l'eau, bien sûr, est le premier mètre cube gratuit.
Voilà. voilà, c'est quelque chose qui est proposé par nombre d'associations, de groupes de citoyens. Ça veut dire que le droit à l'eau consiste à un raccordement à l'eau avec un certain nombre de mètres cubes, les mètres cubes vitaux gratuits, et puis ensuite un prix qui augmente en fonction de la consommation. Il faut que l'eau nécessaire pour boire et pour se laver reste gratuite et que l'eau pour remplir les piscines ou arroser les gazons soit plus chère. C'est dans la logique. Je prends l'exemple de mon village, Valerne. Il y a quelques années, le cubage des citoyens était important et plus le mètre cube baissait, ce qui était inadmissible. Je me suis battu contre ça et bon, depuis, la mairie a uniformisé le prix du mètre cube d'eau. On ne peut pas vivre sans eau, donc les premiers mètres cubes et l'abonnement gratuit et on se rattrape sur les mètres cubes suivants. Vous pouvez vous engager auprès des associations qui luttent pour la protection de l'eau. Vous pouvez vous engager dans vos villages pour demander que l'eau redevienne un bien commun et vous pouvez aussi rejoindre le groupe d'action de la France Insoumise du Sisteronais ou des environs, puisqu'il y en a un petit peu partout dans le département. Les biens communs, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, je profite de l'audience que vous avez pour annoncer une journée importante. Ça sera le 8 mai 2021. Puisque le 8 mai 2021 est organisée une journée nationale, mais ce sera surtout dans notre coin, hein, de protection des biens communs. C'est organisé par les Gilets jaunes du 05, et ainsi que pas mal de citoyens, la France Insoumise y participe. Et pour ceux qui se rappellent, le 8 mai 2019, il y avait 1200 personnes sur le pont de Savines, avec une banderole « Quand tout sera privé, nous serons privés de tout ». 1200 personnes un jour de pluie sur le pont de Savines. Je peux vous assurer que ça a fait du bruit. On espère faire au moins aussi bien cette année, le 8 mai 2021, et l'essentiel de l'action sera sur le barrage de Serre-Ponçon. Pour défendre tous les biens communs. Les biens communs, c'est aussi bien l'eau, comme je l'ai dit, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est les transports, ce sont les télécoms, les réseaux. Vous savez qu'on se fait complètement enfumer sur la fibre optique, le très haut débit pour tous. Ça fait 15 ans que ça dure. Vous pourrez venir manifester le 8 mai 2021. Certainement assisteront le matin et dans d'autres endroits, comme Digne-les-Bains, comme Château-Arnoux-Saint-Auban. Et puis ensuite, au barrage de Serre-Ponçon à midi.
À Gap, Blandine Gaillot a créé sa propre marque de cosmétiques.
Utilisant principalement des produits made in Hautes-Alpes, Blandine Gaillot a fondé l'une pour l'autre pour prendre soin de sa peau. Lait d'anès, miel, eau de source des écrins, mais aussi huile de coco ou encore beurre de karité composent une gamme originale et respectueuse de l'environnement. C'est ce qu'elle explique au micro de Caroline Lagru.
Au micro de Fréquence Mistral, nous avons le plaisir d'accueillir Blandine Gaillot, la jeune créatrice de la marque cosmétique L'une pour l'autre. Bonjour Blandine.
Bonjour Caroline.
Et d'ailleurs, ce joli concept, L'une pour l'autre, mais pourquoi l'une comme la lune ?
Alors, l'une pour l'autre, c'est venu pour trois raisons qui sont assez simples. J'ai sélectionné un symbole de la féminité qui est la lune. Donc, le logo est représenté par un joli croissant de lune dorée. Phrase l'une pour l'autre qui, pour moi, reflète la confiance et l'engagement. Ça peut être entre moi et mes clients ou avec mes producteurs ou mon laboratoire. Et c'est un joli petit clin d'œil à ma fille qui s'appelle Luna.
Très touchant et très mignon tout ça. D'où vous est venue cette belle idée de créer un cosmétique avec des produits des Hautes-Alpes déjà, qui allie santé, plaisir, beauté? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est un choix qui date de l'enfance? Dites-nous en plus.
Alors, je vais donc déjà me présenter. Donc effectivement, Blandine Gaillot. Donc je suis née à Gap, j'ai 32 ans. J'ai grandi dans les Hautes-Alpes et j'ai créé la marque de cosmétiques L'une pour l'autre en juillet 2020, donc c'est assez récent et je suis très heureuse de cette nouvelle aventure. Pour un petit peu l'origine de la création de la marque, il faut savoir que je suis commerçante depuis 7 ans, maintenant au bord du lac de Serre-Ponçon. J'ai une boutique dans laquelle je commercialise depuis longtemps des cosmétiques au lait d'anès et j'ai une clientèle vraiment fidèle et habituée de ce type de produit qui est très spécifique, puisqu'il faut savoir que le lait d'anès a des vertus ultra riches puisqu'elle est composée de nombreux minéraux, oligo-éléments, vitamines et acides gras naturels qui sont là pour aider à fortifier la peau, l'adoucir, qui stimule. C'est pour ça que j'ai voulu créer ma propre gamme de cosmétiques de lait d'anès bio et je voulais intégrer des produits locaux des Hautes-Alpes. Ça me tenait vraiment à cœur. J'ai donc intégré pour le moment du miel, miel des Hautes-Alpes qui provient de Happyland Nature, basé au Rousset. J'ai la chance de pouvoir utiliser le miel de Lionel et Sandrine, qui est régulièrement médaillé d'or et qui a obtenu le prix de l'excellence. Donc c'est un miel de très haute qualité qui est utilisé dans tous les produits de la gamme.
Lionel et Sandrine, donc des apiculteurs d'espinasse.
Voilà, tout à fait. À Rousset, exactement, au pied du barrage de Serpenson. Et j'utilise également de l'eau de source des écrins dans les cosmétiques, puisqu'il faut savoir qu'une crème cosmétique est composée au minimum à 60% d'eau dans la composition.
Donc un choix, les écrins étudiés, c'est donc de l'eau de notre région ?
Voilà, tout à fait. C'est à Chorge, en fait, et je récupère l'eau de source de montagne et je la fournis au laboratoire qui fabrique mes cosmétiques, puisque les cosmétiques sont fabriqués à Cabanes, en Provence, par un laboratoire, et je travaille en collaboration avec des chimistes avec qui on travaille les formules de chaque produit pour qu'elles soient le plus sain possible et le plus naturel possible. L'objectif, effectivement, dans mon développement, est de fournir le maximum de matières premières au laboratoire et surtout de connaître la provenance de chaque produit. Notamment, pour un exemple, je reviens d'un voyage au Burkina Faso. Je viens de rentrer il y a quelques jours pour rencontrer des producteurs de beurre de karité, puisqu'il y a du beurre de karité dans mes cosmétiques. Je souhaitais vraiment déjà connaître le processus exact pour obtenir le beurre de karité, rencontrer des associations qui le proposent, pour par la suite acheter directement mon beurre de karité, le fournir au laboratoire pour savoir qui le fabrique, comment et où, et l'utiliser si possible de manière vraiment brute et naturelle, qu'il ne soit pas raffiné pour l'utilisation des cosmétiques. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir et je travaille sur de nouveaux produits qui arriveront au printemps. Je suis actuellement en train de travailler sur un baume multi-usage qui sera adapté pour les lèvres, le corps et les cheveux, dans lequel je vais certainement intégrer un produit alors plutôt régional, qui est de l'huile de pépins de grenade qui provient de Provence, qui est bio. Il y a un producteur qui m'avait contacté et j'ai le plaisir de pouvoir utiliser son huile de pépins de grenade dans ce futur baume multi-usage.
Alors, ces produits, comment sont-ils présentés ?
Alors, aujourd'hui, je propose 6 produits différents qui sont une crème pour le visage, un lait corporel, une crème pour les mains, j'ai également un savon solide, un sérum et un shampoing douche avec du lait d'anès bio, du miel donc des Hautes-Alpes dont on a parlé juste avant, mais il y a d'autres produits qui peuvent être ajoutés comme le beurre de karité, comme l'huile de coco, de l'aloe vera. Donc selon les produits, effectivement vous pourrez retrouver sur le site internet vraiment la composition de chaque produit.
Au niveau de l'odeur, d'ailleurs on se pose toujours la question, on aime bien hein, les femmes et les hommes aussi, d'ailleurs on va en parler si c'est pour les hommes aussi. Mais au niveau de l'odeur, c'est karité, c'est aloe vera.
Il y a un parfum qui est rajouté et qui est juste extraordinaire. C'est assez addictif. Quand on le connaît, on peut plus s'en passer.
Mais tout ça pour être bien avec sa peau, c'est important chez une femme, prendre soin de soi, presque indispensable, donc de la santé, du respect de la peau. On tend vers le naturel et c'est ça que représente aussi l'une pour l'autre.
Tout à fait, c'est vraiment avec conviction et motivation que je vais dans cette direction, dans le respect de la peau, de l'environnement et avoir des produits le maximum naturels.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Alors actuellement, j'ai la chance de pouvoir proposer les produits dans une vingtaine de points de vente qui se situent dans la région PACA et également en Rhône-Alpes. Il y a des pharmacies, des magasins bio, magasins de produits locaux, des concept stores multimarques, mais également dans des hôtels, des instituts de beauté. Vous pouvez retrouver la liste des revendeurs sur le site internet lunepourlautre.fr et vous aurez tous les points de vente qui seront regroupés sur une page.
Pour donc se faire belle et commander l'une pour l'autre, on peut retrouver Blandine Gaillot, donc sur son site et dans des lieux spécifiques qu'elle vient de préciser, mais également
sur le site internet. Je fais de la vente en ligne, donc c'est un site e-commerce. Donc vous pouvez commander les produits sur le site internet, donc lunepourlautre.fr. Voilà, les frais de port sont offerts à partir de 60 €, donc dans toute la France. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message si vous avez des questions sur les produits. Il y a mes coordonnées, adresse mail. Vous pouvez également suivre l'actualité de la marque Lune pour l'autre sur Facebook et Instagram, sur voilà les réseaux sur lesquels je suis présente régulièrement.
Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour Force 7.
Merci Olivier, à bientôt.